Mardi 20 mai 2020, 9h du matin. Lydia est une jeune femme de 22 ans. Elle a un regard timide, légèrement fuyant, compensé par un sourire malicieux. Ce matin, elle a rendez-vous avec un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu. Arrivée devant chez lui, elle attend un instant, puis sonne à la porte. Il ouvre et la précède à l'intérieur de la maison. Elle traverse une entrée et se retrouve dans une grande pièce. Elle regarde le canapé face au fauteuil dans lequel il vient de s'asseoir. Elle demande « Alors, c'est ça ma place ?» Il répond « Si vous voulez bien. » Elle fait quelques pas dans la pièce, scrute le décor, puis dit doucement « J'adore observer l'intérieur des gens. Je fais des études d'archi, donc c'est un peu mon truc. Enfin bon, je vous raconte ma vie. Remarquez, c'est fait pour ça, non? Les gens, ils viennent ici pour pleurnicher sur leur vie, c'est ça ?» L'homme reste silencieux. La jeune femme se lance. Elle est originaire de Lille, où vivent encore ses parents qui s'occupent de son petit frère autiste. Et puis, un long silence s'impose. Son regard se perd dans ses pensées. Elle sait qu'elle est venue aujourd'hui pour parler de son secret, mais elle n'y arrive pas. Soudain, des larmes se mettent à embuer son regard. Elle prend un carnet dans son sac à main et écrit un mot. Elle détache la page et la tend à l'homme. Il la lit, la pose à côté de son fauteuil et d'une voix douce lui demande « De quel cancer s'agit-il ?» Elle lui répond « J'avais juste besoin de le dire à quelqu'un. »
Podcast Story.
Cette histoire est une fiction. Lydia Ronsard est l'un des personnages de la série En Thérapie. Un succès phénoménal, avec plus de 53 millions de vidéos vues pour la saison 1. Un record historique pour la plateforme de la chaîne Arte. Il s'agit de l'adaptation de la série israélienne Beautiful. 18 pays, dont le Japon, les États-Unis et la Russie, ont eux aussi décliné leur version sur le même principe. Chaque épisode est une séance de psychanalyse. Qui aurait cru que passer des heures sur son canapé à regarder des gens sur un divan pouvait autant passionner? Comment expliquer cette audience? Certainement par le fait que les personnages de la série nous ressemblent. Ils traversent des moments difficiles, similaires aux nôtres, partagent les mêmes inquiétudes que nous. La saison 1 évoque les attentats du Bataclan. La 2 se déroule post-confinement, en pleine crise sanitaire de la Covid-19. Ces personnages sont nos miroirs. Leurs questionnements, leur volonté d'aller mieux, parlent de nous. Comme le dirait un psy, nous projetons notre vie sur la leur. Nous nous identifions à eux. Regarder cette série, c'est un peu comme prendre soin de soi, par procuration. Selon certains, le côté voyeur de la série est l'un des facteurs de son succès. Le fantasme paraît bien réel. Qui n'a jamais rêvé d'écouter à la porte d'un psy pour y découvrir les secrets de ses contemporains? Ce serait une bonne façon de se rassurer, de se déculpabiliser, se rendre compte que nous sommes tous semblables avec nos imperfections, nos fêlures, nos hontes supposées inavouables. Toute cette vulnérabilité qui est le symptôme de notre humanité. Comment est née la psychanalyse? Son père s'appelle Sigmund Freud, un médecin neurologue autrichien du 19e siècle. Il invente une méthode singulière qui ne nécessite ni opération, ni administration de médicaments, uniquement un échange de paroles. À l'époque, la démarche est révolutionnaire. Il faut savoir qu'on soignait ceux que l'on appelait les fous, de manière souvent barbare, notamment avec des électrochocs. Freud change donc la pratique. Peu à peu, il établit les règles de sa thérapie par la parole. Le psychanalyste écoute son patient, parfois oriente son attention et lui suggère des interprétations. Il invite à dire tout ce qui nous passe par la tête, même si cela semble ne pas avoir de sens. C'est le principe de la libre association. Ce précepte fait du cabinet du psychanalyste l'unique endroit où l'on est libre d'exprimer tout ce que l'on veut, sans jugement. Et lorsque le patient parle, le psychanalyste écoute. Mais il écoute vraiment, comme personne ne le fait dans la vraie vie. Car aujourd'hui, dans notre quotidien, qui sait écouter? Qui a envie d'écouter? Nous nous contentons, la plupart du temps, d'attendre que notre interlocuteur termine sa phrase pour prendre la parole et donner notre avis. Le psy, lui, écoute avec attention et intérêt. C'est une écoute thérapeutique. D'ailleurs, le mot « écouter » vient du latin « auscultare », qui veut aussi dire « ausculter », donc « explorer », « étudier », « inspecter ». En psychanalyse, le patient peut être assis face au psychanalyste ou bien allongé sur un divan. C'est une patiente de Freud qui en a eu l'idée. Un jour, en pleine séance, Fanny Moser est gênée par le regard de Freud, qu'elle trouve trop pesant. Cela l'empêche de parler librement. Alors, elle quitte son fauteuil et s'installe sur le divan, dos à lui. C'est ainsi que la position allongée du patient, hors du regard du psy, est devenue l'une des singularités de cette méthode thérapeutique. En moyenne, une séance est aujourd'hui facturée entre 50 et 100 euros. Elle est généralement hebdomadaire et dure 45 minutes. Quant à l'ensemble de l'analyse, cela va de quelques mois à plusieurs années. Pourquoi la psychanalyse, dès le début du XXe siècle, a séduit autant de patients? Certainement parce que les psychanalystes ont remplacé peu à peu deux figures essentielles, le médecin de famille et le curé du village. Durant des siècles, ces deux savants accompagnaient les vies, les doutes, les injustices, les drames. Le médecin écoutait les douleurs somatiques et tentait de les soigner. Le curé confessait et expiait les mauvaises pensées, les actions condamnables au regard de Dieu. Aujourd'hui, les médecins sont en téléconsultation sur Doctolib. Ils établissent au plus vite un diagnostic et prescrivent des médicaments. Quant aux curés, leurs églises se vident, génération après génération. Si le point commun entre la psychanalyse et la religion est l'incitation à parler, à se confesser, le parallèle s'arrête ici. La religion dicte un ordre moral. La psychanalyse, au contraire, s'abstient de tout jugement. La religion exige d'entrer dans une croyance et les rites qui l'accompagnent. La thérapie invite à se déconditionner de toute forme d'endoctrinement. À ce titre, il est intéressant de noter que la psychanalyse s'est surtout implantée dans des pays majoritairement catholiques ou juifs. Chez les bouddhistes, elle n'existe pour ainsi dire pas. Rien d'étonnant à cela, les deux démarches pouvant être considérées comme relativement proches. Le bouddhisme aussi prône le retour à soi, à l'acceptation de soi. Dans les pays musulmans, elle est pratiquement absente, l'islam étant une religion qui prédomine toutes les autres institutions, ses règles supplantant l'idée même d'une émancipation individuelle. C'est donc logiquement dans des pays chrétiens que la psychanalyse est le plus ancrée. En priorité en Argentine, où 92% de la population est de tradition catholique. Aux États-Unis, qui compte 70% de chrétiens, et en France, où 48% de personnes sont catholiques. Le cas de l'Argentine est unique au monde. Ce pays est le plus analysé de la planète. Il remporte le record international du nombre de psys, soit 1 pour 650 habitants. La capitale Buenos Aires est dotée d'un psy pour 120 habitants. Il existe même un quartier appelé Villa Freud qui concentre le plus de psychanalystes au mètre carré. Pourquoi ce pays est-il si passionné par la psychanalyse? Pour le comprendre, il faut revenir aux années 1920, période où Freud est enfin traduit en espagnol. Le pays s'intéresse alors aux intellectuels anticonformistes européens. Freud apparaît aux yeux des Argentins comme un révolutionnaire visionnaire, à contre-courant de toutes les idéologies de l'époque. Le fait que de nombreux migrants arrivés en Argentine à la fin du XIXe siècle souffrent de l'éloignement de leur terre natale, de l'abandon d'une partie de leur famille, a aussi contribué à l'essor de la psychanalyse. Mais c'est surtout dans les années 1960 que ce nouveau phénomène s'intègre dans le mode de vie des Argentins. C'est une période de bouleversements culturels et sociaux, un moment de questionnement auquel la psychanalyse semble apporter des réponses. Aujourd'hui, en Argentine, la psychanalyse est un sujet comme un autre, qui concerne presque tout le monde. Concernant les États-Unis, la psychanalyse y débarque en même temps que son créateur, en 1909, lors d'un voyage de Freud pour des conférences. Dès l'année suivante, les premières associations de psychanalyse sont créées. 7 ans plus tard, l'Université de Baltimore devient la première école de médecine américaine à proposer des formations en psychanalyse. Mais c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu'elle rencontre son véritable succès. De nombreux militaires, de retour des combats, atteints de troubles mentaux, choisissent cette solution pour guérir leur traumatisme. À partir des années 50, le cinéma s'empare du sujet. Des stars, comme Marilyn Monroe, se font psychanalyser et le disent publiquement. Sa première thérapeute n'est autre que Anna Freud, la fille de Sigmund. Sur grand écran, les plus célèbres réalisateurs se laissent inspirer par le sujet. Woody Allen, patient invétéré, y consacre plusieurs films, tels que « Une autre femme » ou « Anything Else ». Alfred Hitchcock place la psychanalyse au cœur de la maison du Dr. Edwards et « Pas de printemps pour Marnie ». John Huston propose même son biopic sur Freud, « Freud, passion secrète ». Plus récemment, David Cronenberg est revenu sur l'amitié entre Freud et le psychanalyste suisse Carl Gustav Jung dans « A Dangerous Method ». Le lien entre Freud et la France est ancien. C'est à Paris qu'il réalise une partie de ses études à la Salpêtrière auprès du docteur Charcot, le neurologue le plus reconnu de l'époque. Quelques années plus tard, suite aux premières publications de Freud, c'est d'abord avec un mélange de scepticisme et de curiosité que ses théories sont reçues dans l'Hexagone. Dès les années 20, des personnalités publiques à l'image de la princesse Marie Bonaparte aident à la création de la Société psychanalytique de Paris. En 1953, Jacques Lacan crée la Société française de psychanalyse et devient l'un des thérapeutes les plus influents et médiatiques du pays. Une vingtaine d'années plus tard, Françoise Dolto démocratise la psychanalyse auprès du grand public grâce à des émissions de radio « Docteur X » sur Europe 1, puis « Lorsque l'enfant paraît » sur France Inter. Autre caractéristique qui explique l'intérêt de la psychanalyse en France. Une morosité qui nous est propre. Les chiffres de vente des tranquillisants le prouvent. Notre pays est le 2e plus gros consommateur d'Europe de médicaments de type Valium ou Xanax, juste derrière l'Espagne. Si elle connaît un succès croissant depuis sa création, la psychanalyse n'a pourtant pas échappé aux critiques, aux remises en cause et aux accusations de toutes sortes. Dès sa naissance, de nombreuses institutions, politiques et religieuses, voient la pratique d'un mauvais œil. Freud lui-même est l'objet de nombre de ces critiques. Son manque de rigueur scientifique, son autoritarisme, sa consommation chronique de cocaïne, sa misogynie. On a aussi longtemps pointé du doigt l'aspect sectaire de certains de ses courants. Précisons qu'en France, la psychanalyse n'est pas réglementée. Tout le monde peut ouvrir un cabinet de psychanalyse sans aucun diplôme ni formation, avec toutes les dérives que cela peut générer. On a aussi mis en doute son efficacité. Des livres devenus best-sellers y ont contribué. Qui pratique la psychanalyse ? En France, derrière l'abréviation « psy » se cachent des métiers très différents. Faisons un point sur les 3 principaux. Le psychologue est issu d'une formation universitaire. Il peut proposer plusieurs types de psychothérapie. On en compte environ 74 000. Le psychiatre, lui, est médecin. C'est un spécialiste des maladies mentales. Il peut décider d'un traitement pharmacologique ou d'un internement. Ils sont un peu plus de 15 000. Le psychanalyste, quant à lui, est généralement formé et supervisé par une société de psychanalyse. Il a lui-même suivi une psychanalyse, c'est la base. On estime leur nombre à 6000. Pourquoi la psychanalyse rencontre plus d'un siècle après son invention toujours autant de succès? Certainement parce qu'elle fait partie des rares thérapies à prendre en compte les trois dimensions de l'être humain, sa biologie, le corps, sa psychologie, le psychisme, et sa sociabilité, l'interaction humaine. La définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé est d'ailleurs très claire sur ce point. La santé est un état de complet bien-être, physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Parallèlement, la psychanalyse séduit, certainement car elle se place en opposition au libéralisme mondialisé. Elle invite ses patients à être libres, à devenir responsables, autonomes, à penser et à vivre par eux-mêmes. Reconnaissons qu'elle suscite aussi l'attrait du mystère qu'elle suggère. Que cache notre inconscient? Qui sommes-nous réellement? Quid de notre ombre? Dans la lignée de la célèbre phrase de Nietzsche, « Werde, wer du bist, deviens celui que tu es », la psychanalyse invite à prendre conscience de toutes ces dimensions, y compris les plus cachées. Preuve de l'intérêt toujours actuel des Français pour la psychanalyse, la radio de service public France Inter y consacre en septembre 2022 une nouvelle émission. Nommée « L'inconscient » et animée par le psychanalyste Juan David Nacio, le programme propose des analyses de cas psychanalytiques ou quand les auditeurs se mettent à écouter l'homme qui écoute ses patients. Parallèlement, le journal Le Monde lance une nouvelle rubrique hebdomadaire nommée « Le Monde sur le divan » écrite par la psychanalyste Claude Almos. En 2020, 47% des Français déclaraient avoir gâché leur vie par de mauvais choix effectués. Et faire une psychanalyse, c'est tenter de se mettre en paix avec son passé pour vivre un présent plus serein. Alors que nous vivons aujourd'hui dans un monde en perte de sens, la psychanalyse propose de partir en quête de ce qui nous en apporte. Nombre de guérisons de maux psychiques passent par là. La plupart des souffrances psychiques sont liées au manque de sens, disait Jung. Et puis, à l'heure où l'IVG est remise en cause aux USA, où les idéologies extrêmes de tous bords montent plus que jamais en France, le cabinet du psy apparaît comme un îlot de tolérance, d'ouverture, d'acceptation. Notre monde moderne génère nombre de souffrances psychiques qui incitent implicitement à consulter un psy. De nouvelles sources d'angoisse ne cessent d'émerger. Chez les jeunes, l'éco-anxiété, la peur du changement climatique est l'une des principales. 45% des jeunes Français en souffrent. Un mal-être qui se traduit par des troubles dépressifs, des perturbations du sommeil, de l'alimentation, de la concentration. Autre facteur de perturbation, le lien à l'autre, peu à peu remplacé par une hyper-connexion numérique. L'idée même d'engagement s'évanouit de plus en plus dans tous les domaines de notre vie. Les réseaux sociaux font perdre le sens de l'amitié. Les sites de rencontres sans lendemain prônent l'instabilité des sentiments. Même nos relations professionnelles deviennent fragiles et précaires. La société du travail valorise l'intérim, l'ubérisation, les CDD, ces contrats à durée déterminée. Tous ces dévoiements de notre société contribuent à nous allonger sur le divan pour reprendre confiance en nous. Et puis, à l'heure où tout doit aller de plus en plus vite, la psychanalyse symbolise l'éloge de la lenteur. Si la psychanalyse a pour ambition d'aider à mieux vivre, elle permet aussi de prendre conscience de notre finitude, de notre mortalité. Elle s'oppose de nouveau à la société qui occulte l'idée même de mort. Enfin, alors que notre monde actuel valorise l'extériorisation, ce qui se montre, se voit, les clinquants signes extérieurs de richesse, la psychanalyse propose l'inverse, voyager à la découverte de son intériorité. Elle propose d'être à l'écoute de ses réels et spécifiques besoins, n'en déplaise aux injonctions sociétales de standardisation. Elle invite le patient à revendiquer son droit et son devoir à vivre dans toute sa singularité et sa précieuse unicité.
Podcast Story. On a tous une histoire à écouter.